Anatomie d'une chute, Palme d'or à Cannes en 2023, a été projeté lors de la 48e édition du Festival du film international de Toronto, le TIFF. Sa réalisatrice, Justine Trier, est venue présenter ce thriller autour de la langue et de l'incompréhension. Film de procès, Anatomie d'une chute démarre au cœur d'un chalet dans lequel aura lieu l'accident, avant de disséquer minutieusement la psychologie d'un couple.
Vous avez eu déjà une interview en français ?
Ça fait longtemps, non ? Là, ça... okay. Je suis ravie, ça me repose.
Très bien, bah tant mieux. J'imagine que là, c'était, si j'ai bien suivi, la première qui se passait dans une audience franco-anglaise.
Ouais, très très joyeux, très émouvant pour moi d'être dans une salle comme ça et très heureuse. C'est la première fois que je viens à Toronto, donc extrêmement émue d'être là.
Est-ce que vous sentez que l'audience anglophone, mais potentiellement franco-anglophone, elle a reçu ce film différemment que l'audience francophone ?
Je sais pas exactement pour chacun, mais par contre, je sais qu'il y a une chaleur, quelque chose de très très chaleureux ici, encore plus que partout.
Et pour un film bilingue, vous aviez déjà travaillé, il me semble, il y a 13 ans, en 2010, un film au Brésil.
Oui.
Vous ne comprenez pas tout à fait le Brésil, vous
avez connu
l'époque. Là, le travail en anglais, en allemand, en français, comment ça se passe à l'écriture et puis comment ça se passe avec les comédiens ?
En fait, c'est très très maîtrisé par nous à l'écriture, donc du coup, on est vraiment face à... Nous, en tout cas, on contrôle tout parce qu'en fait, ça part du français et après, on traduit tout. Avec les comédiens, il faut en fait arriver à être tous un peu d'accord sur la même version, mais c'est très excitant à faire et c'est vraiment le sujet du film puisque le film est vraiment autour de la langue et... Et la langue incarne vraiment le fait de ce couple qui ne se comprend pas, en fait. Donc, c'est un sujet du film. Donc, on était complètement immergés dedans. Mais c'est vrai que ça a rajouté beaucoup, beaucoup de travail, en tout cas, avec tous les traducteurs et toutes les traductions différentes. C'était plus d'investissement, on va dire. C'était un personnage de plus, la langue, dans le film. Ouais.
Donc, c'est un film qui a été écrit en français.
Ouais.
Est-ce que vous l'avez travaillé avec les protagonistes aussi, la traduction ?
Non, la traduction, quasiment pas. On va dire très, très peu les finalisations vraiment avec eux. Mais franchement, la majorité, c'était avec des traducteurs que j'ai choisis. Et où on s'entendait bien, on se mettait bien d'accord. Mais c'était la scène de la dispute, par exemple, qui est vraiment une scène importante, était d'abord en français. Et j'avais beaucoup de mal à lâcher tout en anglais parce qu'il y avait des endroits où c'était moins imagé en anglais que ce que j'avais fait en français. Et au fur et à mesure, on a réussi. Mais c'était vraiment beaucoup de travail de plus. Ouais.
Quand vous le voyez à l'image, là, la dispute en anglais, vous retrouvez l'intention initiale pour...
Ouais, complètement. Hein. Ouais, je le retrouve, ouais. On s'est bagarré pour garder quand même des choses un peu... pas des expressions toutes faites, mais des expressions un peu bizarres, un peu rigolotes, un peu étranges, imagées, qui ne sont pas juste les expressions parfaites qu'on a déjà entendues, quoi.
Oui, qui sont liées au fait que quand on s'engueule, on n'est pas forcément clair.
Voilà, ouais, exactement.
Dans la bataille de Solferino, il y a une longue scène d'engueulade qui est aussi liée à l'impro des comédiens. Est-ce que là, vous leur avez donné cette liberté, sachant que vous ne compreniez pas forcément les paroles ?
Non, je comprenais vraiment très très bien les paroles, parce que justement, je l'avais écrit, je connaissais tout. Non, il y avait beaucoup plus de liberté pour la bataille. D'ailleurs, on le sent parce qu'ils se répètent beaucoup aussi. Ils redisent beaucoup, beaucoup les mêmes phrases. Alors que là, c'était très écrit et extrêmement contrôlé. Ils ont dû charger un ou deux mots des fois en disant ça, je cite. Mais franchement, c'était très, très proche de ce qu'on avait écrit.
Ça sent qu'il y a une forme beaucoup de contrôle. Est-ce que dans la direction aussi, sur le plateau, c'était la communication ? Je parle beaucoup du Miller Lewis parce que c'est vraiment une problématique propre au Canada. Et dans la direction, comment ça se passait ? Est-ce que vous aviez communiqué parfois en anglais pour donner des mots ?
Ouais. Alors moi, j'étais obligée de communiquer tout le temps en anglais avec Sandra parce qu'elle connaissait le français, mais voilà, donc moi, j'ai un anglais vraiment très pauvre, mais on se comprenait. Et Sandra, c'est quelqu'un de très rapide. Des fois, on se comprend même sans se parler, donc ça allait assez vite. Mais des fois, j'avais même plus de facilité à ce qu'on se comprenne en anglais avec mon anglais pourri que quand je parlais à des Français en français. Donc, comme quoi la langue n'est pas juste le seul ressort de compréhension entre les êtres humains. Mais en fait, c'était assez simple, assez efficace. Des fois, c'était juste un mot, deux mots. More, laxis, less. C'était très, très simple. J'avais juste un petit dictionnaire d'adjectifs que j'avais demandé de me traduire des trucs pour être sûr de ne pas me tromper. Mais c'est vrai que... C'était assez simple, en fait, ouais.
Et avec Milo Graner, c'est ça,
ouais.
Garçon ? Déjà, le casting avait été complexe. Vous avez abandonné l'idée de caster un garçon avec...
Ouais, malvoyance.
Et la deuxième contrainte, c'était qu'il parle également les deux langues.
Ouais.
Comment vous avez ressenti et comment vous avez préparé ça avec lui ?
Alors, c'est vrai qu'on a eu à la fois la malchance, entre guillemets, de ne pas trouver... Parce que moi, je voulais vraiment un enfant malvoyant. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour faire jouer à un enfant la malvoyance sans l'aide vraiment. Je trouvais ça dommage, en fait. Et en fait, on a dû s'y résoudre. Et c'est vrai que Milo est vraiment extrêmement brillant, très, très rapide. Il est vraiment d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire qu'il est, Il est assez jeune, mais tu sens qu'il est très, très, très rapide, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a, il est lui-même de double nationalité, c'est-à-dire qu'il est français, mais portugais aussi. Donc, il a déjà ça. Il est très, très doué en anglais déjà de base. Donc, ça allait vite, en fait. Encore une fois, on est tombé sur un enfant. Enfin, on l'a cherché, hein. Mais ça a été, quand on l'a trouvé, c'est vrai qu'il s'est complètement immergé. Il ne savait pas jouer au piano. Deux mois avant le tournage, il a appris à jouer trois morceaux qu'il arrivait à jouer parfaitement au tournage. Enfin, il avait vraiment une facilité, une aisance pour apprendre les choses assez rapidement. Donc, on a eu de la chance aussi de l'avoir.
C'est une vraie leçon d'humilité.
Ah ouais.
Et puis, son texte aussi très bien écrit. Donc, c'est appréciable de regarder. Est-ce que vous avez trouvé dans l'écriture, justement, le fait que ça traduise, moi, je sais que la traduction, parfois, elle apporte des nuances ou parfois, elle réduit. Est-ce que vous avez trouvé que ça vous apportait quelque chose dans l'écriture? Est-ce que ça vous a donné envie de prolonger ça?
Oui, des fois, l'anglais permet notamment d'ouvrir. Il y a des choses qui sont plus fermées en français, qui vont être vraiment déterminées, des adjectifs, des choses qui vont vraiment fermer. Et en anglais, des fois, il y a des expressions qui permettent justement de laisser un trouble sur la traduction, quelque chose de plus ouvert. Donc ça, c'est super. Et puis, l'anglais est une langue extrêmement musicale. Donc moi, j'étais vachement surprise aussi de ça, de me rendre compte à quel point il y a des scènes qui, dites en français ou en anglais, n'ont pas du tout la même résonance, parce que l'anglais a quelque chose de très, très, très... Ouais, de très musical, quoi. Donc, c'est une autre façon de complètement de résonner, en fait, de faire résonner les choses. Donc, moi, ça m'a beaucoup appris. Et puis, des fois, il faut arriver à accepter d'adapter vraiment. Et ça, c'est une chose complexe pour moi, parce que j'aime bien tenir tout. Je suis très contrôle freaks. Et c'est vrai qu'il faut arriver à laisser des fois, à se dire, bon, voilà, faire quand même confiance aux acteurs aussi. Des fois, il y a un acteur qui va dire, moi, je peux pas dire ce mot, parce qu'en fait, je n'arrive pas à le dire. Donc, il faut arriver à switcher, à lui dire, ok, il n'y a pas de problème, tu peux dire ce mot, et même si ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais parce qu'en fait, lui se sent plus à l'aise. Et moi, c'est le fait de m'adapter est vraiment tellement fort dans ma manière de travailler avec les acteurs. Je pense que quelqu'un de coincé dans son idée du script, etc., s'il arrive sur le plateau comme ça, moi, je pense que c'est très dangereux pour... Moi, j'ai toujours l'idée de, quand on arrive sur le tournage, de dire, le script, c'est super, mais ce n'est pas un roman. Il faut arriver à vraiment se faire violence des fois et à vraiment se dire, bon, il faut quelque chose de nouveau se passe là. Et peut-être des fois, ça passe aussi par le fait de couper. Moi, ça m'arrive de couper des énormes pans de dialogue, de choses. Parce que tout à coup, je me dis, mais en fait, la scène est engoncée dans de la signification pénible, en fait. Alors finalement, d'enlever ça, ça va amener beaucoup plus de regards, de choses beaucoup plus ineffables qu'on vit dans la vie, quoi. Mais ça, c'est cette réactivité que je trouve passionnante. Et plus je fais de films, plus je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait.
De pouvoir
tout le temps revenir sur son propre scénario, que ce soit à la fois sur la langue, parce que c'est arrivé plein de fois qu'on change des petites choses, qu'on se dit, ah, finalement ça on va le faire en français, ou l'inverse, Sandra me dit non, je peux le faire en français, ou l'inverse, je dois le faire en anglais. Donc des fois on switchait très vite, ou alors simplement d'enlever des pans de scénario, de rajouter des choses, enfin voilà.
Contrôle freak, mais quand même une idée assez...
Pour moi, c'est vraiment un bras de fer constant entre le côté un peu contrôle freak et le côté adaptation, en fait, aux acteurs. Ouais.
Et tes techniques aussi, il faut s'adapter en permanence.
Ouais.
Ouais, y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, notamment, vous dites dans pas mal d'interviews, l'imperfection de certains plans. Vous avez dit,
ouais,
au tribunal, vous n'aviez pas envie que ce soit rigide.
Uh-huh.
Et il y a aussi ce plan très étonnant au moment où on découvre le coffre. Mais comment vous avez fait ces choix de ne pas rester sur quelque chose de plus peut-être austère sur un plan aussi vieux?
Je pense que le robinet à fiction des films de genre est tellement énorme chaque semaine. Il y a tellement de fiction, de thrillers, de films de procès, etc., qui sortent sur les plateformes dans le cinéma, que moi je devais trouver ma manière à moi d'entrer là-dedans. Et ma manière à moi, je pense, c'était de faire un film, justement, qui n'aille pas vers l'endroit que je vois le plus, c'est-à-dire le côté très lisse, très, très parfaitement maîtrisé, très propre de la justice, très propre de... Voilà. Et donc, il fallait que je trouve, voilà, ma manière. Et pareil, pour la découverte du corps, je pense que le fait d'être à hauteur de chien, c'est quelque chose qui, moi, j'avais, en l'écrivant cette scène, je me disais, mais... Je sais pas que je m'emmerdais, mais je me disais, mais j'ai vu ça 500 fois, quoi. Donc, comment faire pour que moi, en faisant ça, j'ai pas l'impression de répéter ce que j'ai déjà vu et de trouver encore un amusement? C'est aussi ça, hein, c'est simple. Des fois, c'est des choses très simples de se dire, mais genre, j'ai envie de tourner cette scène. Plutôt que juste de me dire, bah, je vais couvrir cette scène pour l'histoire. En fait, l'idée de couvrir une scène est déprimant. Donc, il faut arriver à toujours trouver, à s'amuser. Et je pense que le chien va beaucoup aider à finalement le traiter comme, non pas un faire-valoir de l'homme, mais comme un être vivant qui regarde lui-même la scène. Et donc, de me mettre à son niveau, c'est déjà un acte finalement pas si fréquent. Et par rapport à ce que vous disiez sur la perfection des mouvements ou des choses, je pense que c'est quelque chose qui... m'a hanté. Et des fois, mon chef-op me disait, mais pourquoi t'as choisi les prises les plus moches ou les plus... Et je disais, oui, mais c'est là qu'il se passait quelque chose de fragile, qu'il y avait un petit accident, quelque chose qui se produisait avec l'acteur. à une lumière qui était un peu bizarre, mais qui faisait que du coup, on a l'impression d'être presque face à du documentaire ou quelque chose d'accidenté. Et je pense que toutes ces petites imperfections créent, à mon avis, quelque chose de très vivant, quoi. Et voilà.
Mais c'est Simon Beaufils ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est la troisième fois. Ouais.
Est-ce que c'est pas la même chose de travailler avec un chef-op qu'on a pensé à une technicien de l'équipe de... Vous avez votre conception contrôle flic, mais vous avez aussi une certaine confiance et vous y en laissez imposer.
En fait, alors, moi, j'étais beaucoup moins contrôle flic sur Victoria ou sur Sybille. Et là, je l'étais beaucoup plus sur ce film-là. Donc, je pense qu'il a fallu qu'on s'adapte tous. Mais je pense qu'effectivement, Simon, il y a plein de moments où il y a eu des accidents, ce que j'appelle des accidents, en fait, à la caméra ou dans le jeu, que moi, j'ai gardé. Et qui, normalement, qui ne sont pas des choses qu'on garde, parce que c'est avant qu'on dise action. Donc, c'est le moment où la caméra, il s'installe. Il ne pense pas que je vais garder ces moments de gras, en fait. Mais lui a déjà mis, en fait, rec. Et donc, moi, j'ai la liberté au montage de garder ces bouts de gras. Mais c'est souvent, quand on est en montage, mon monteur et moi, on cherche les moments où l'acteur... Des fois, on cherche des regards ou des plans de coupe. Et souvent, moi, je vais toujours chercher dans les moments où ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Parce que c'est pas pour leur voler de manière violente les choses. Hein. C'est juste, en gros, parce que souvent, les gens sont dans des positions qu'ils ne maîtrisent pas, entre guillemets, et qui sont très naturelles. Et souvent, il y a plein d'acteurs qui me disent « Mais vole-moi tout ce que tu peux quand tu vois que je suis à moitié, je sais pas moi, dans le coin, que je suis pas vraiment concentré ou quoi. » Parce qu'en fait, ils savent très bien que même si on leur dit « action », ils vont se mettre à faire « ok », ils vont se repositionner, ils vont se recoiffer et ça va être un peu chiant à utiliser après. Donc, voilà.
Bah, à compter de collaboration avec Sandra Müller, que c'était pas le cas avec elle, que c'était elle qui amenait son caractère. Avant même que vous l'ayez mise en scène, que vous avez écrit en pensant à elle.
Oui, tout à fait.
Et donc, elle a ses scènes volées. Est-ce qu'au final, même avant de dire action, elle n'était pas déjà dans son cas?
Si, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que... Enfin, elle m'a dit « vole-moi tout ce que tu peux » parce qu'elle faisait des premières prises très fortes. Et normalement, les premières prises, en fait, c'est des installations. Et en fait, ils font la lumière et on ne tourne pas. Et en fait, quand elle m'a dit « vole-moi quelque chose », c'était pour me dire en gros « n'hésite pas ». Parce qu'après, je ne referai jamais la même chose. Et c'est vrai, en fait, un acteur, il ne va jamais refaire la même prise que la première fois où il vient sur le plateau, où il ne sait pas, il n'a pas encore tous ses repères. Après, il va s'installer de plus en plus dans une forme de confort, en fait, de repères. Et elle m'a vraiment dit ça. Et c'est vrai que ça a résonné. C'est-à-dire que quand on a vu les rushs, on s'est dit, mais c'est fou, les premières prises de Sandra sont souvent exceptionnelles. Et après, c'est genre 12e prise, ou 14e prise, ou 20e prise. Mais c'est souvent le grand écart entre ce qu'elle va donner la première fois, etc. Mais évidemment qu'elle est déjà dans le personnage, bien sûr. Hein. Ouais.
Ah bah, du coup, la première prise, c'est moins sympa pour vos techniciens, notamment.
Exactement, vous avez tout compris. C'est là où des fois, j'ai eu des petites remarques, genre, mais Justine, pourquoi tu as pris cette prise? Mais cela dit, ils ont compris aussi, enfin, je veux dire, c'était pas contre eux, hein. C'est que des fois, ils savaient qu'il y a une magie, des fois, et c'était pas tout le temps. Je veux dire, au tribunal, il y a énormément de prises qui sont les 30e, les 25e, donc c'est pas systématique, mais il y a eu, c'est vrai, une période du tournage où les premières prises étaient très fortes.
Et là, vous parlez de 12-14 prises, du coup, ça me fait revenir à la langue et vous ne faites pas travailler dans le salon natal. Il doit y avoir un épuisement aussi de votre part, de la part des comédiens, à ne pas s'exprimer dans sa langue. C'est pas...
Oui, mais en fait, en vérité, déjà, Sandra s'exprime quand même assez peu en français dans le film par rapport à l'anglais. Et c'était quand même plus dans l'autre sens. C'est souvent moi qui m'exprimais plus en anglais. Nous, moi, j'avais toujours j'allais toujours vers elle, c'est que je parlais toujours anglais pour qu'elle se sente à l'aise, etc. Parce que l'anglais, elle le maîtrise très très bien. Donc j'allais plus dans son sens à elle, on va dire, que dans l'autre sens. Et puis pour le français, oui, par contre, il fallait s'adapter. Je pense que le français, elle parlait très très vite parce que je pense qu'elle avait peur de ne pas être comme les Français. Donc elle avait... Des fois, elle parlait même trop vite. Je disais, mais non, tu ne peux pas parler aussi vite que ça. Mais oui, forcément, franchement, c'était très différent quand on tournait des scènes en français avec elle. Je faisais beaucoup plus attention parce que je pense qu'elle était flippée, elle était stressée de ne pas être assez bonne en fait en français. Et elle avait une coach de français qui était là aussi. Enfin, elle était très, très entourée. Franchement, on a essayé de la rassurer aussi parce que c'était vraiment un endroit où elle me disait « Moi, là, je ne maîtrise pas du tout ce que je fais. J'ai pas de filet, quoi. » Mais c'était assez intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Parce que nous, dans l'autre côté aussi, ça nous faisait ça aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que je m'exprimais quand même dans un anglais assez pauvre. Donc du coup, voilà, chacun était dans une situation où on n'était pas totalement sur notre territoire. Et moi, je trouvais ça hyper joyeux. Enfin, je pense que l'équipe française était hyper contente de vivre ça et inversement, quoi. Il y avait un truc assez joyeux de partage, quoi. On sortait du Covid à peine. Je pense qu'il y avait un truc assez chouette.
C'était une entrevue avec Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local pour Choc FM 105.1.